Bonjour à toutes et à tous. Parole de crise, votre émission animée par Didier et José, avec vous de 15h à 16h, tous les derniers vendredis de chaque mois. Parole de crise, c'est l'émission de la crise, la coordination révoltée des invisibles solidaires enragés. La crise, c'est qui ? La crise, c'est quoi ? La coordination née à Nancy en avril 2010 lors de la grève des chômeurs. La crise, c'est quoi ? C'est des gens qui refusent le nivellement par le bas, c'est l'antidote à la résignation pour tous les cafards et les cafardes, le poil à gratter des pôles emploi CAF sur le Grand Nancy pour exiger que nous soyons respectés. Bref, parole de crise, c'est votre, c'est notre émission.
Salaud de pauvre.
Oui, ben bonjour Didier aussi pour sur Parole de crise. Parole de crise qui est l'émission de tous les cafards et cafardes, c'est-à-dire de tous les précaires, de tous les chômeurs, de tous ceux qu'on culpabilise chaque jour. Alors, eh bien, Parole de crise, ben voilà, petit billet d'humeur, parce qu'aujourd'hui on parle toujours de violence, on n'arrête pas de parler d'insécurité. Et moi, ben j'aimerais vous parler peut-être d'insécurité sociale, ce que nous vivons tous les jours, on s'en ramasse plein la tronche, et seulement c'est nous les responsables. À mesure que le chômage monte, eh bien, les prisons se remplissent. Tiens, c'est bizarre, ça fait vase communicant. Tiens, je vais vous lire un petit truc et je vous dirai après de qui c'est. Tiens, ça va vous faire sourire, j'en suis sûr. Du groupe le plus défavorisé, on ne peut malheureusement pas toujours attendre une participation sereine à une démocratie parlementaire. Non pas qu'il se désintéresse de l'histoire, mais ses irruptions s'y manifestent parfois dans la violence. Et qui c'est qui a écrit ça, hein ? Eh bien, c'est un certain DSK, Dominique Strauss-Kahn, dans un bouquin qu'il avait écrit en 2002, La flamme et la cendre. Oui, la flamme, oui, effectivement, il avait certainement peur que ça prenne feu. Enfin, voilà, aujourd'hui, combien il y a de chômeurs, combien il y a de précaires, etc. C'est vrai qu'on joue avec les chiffres. Tiens, le mois dernier, vous vous rappelez quand les chiffres du chômage sont sortis ? Eh bien, il y a un ministre qui a simplement sorti que ce n'était pas grave, qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce qu'il y avait là une baisse de la hausse du chômage. Là, il y a quelque chose, une baisse de la hausse. Il y a quelque chose quoi, qui me surprend un petit peu. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on parle beaucoup des chiffres du chômage, mais sans parler des personnes. Et ça me paraît inquiétant. Alors reparlons un petit peu de ces hausses du chômage ou de ces baisses du chômage. Alors pourquoi ça aurait que la courbe de la hausse du chômage aurait baissé ? Simplement, eh bien parce que les radiations dans le même temps de Pôle emploi, vous savez, c'est quand vous êtes à Pôle emploi, hein, l'usine de retraitement en fin de compte des chômeurs, quoi, des déchets, hein, c'est quand on radie, c'est-à-dire dire, on vous dit, vous n'êtes pas des gentils chômeurs. Attention. Donc, on exclut et on fait sortir comme ça. Pour le mois dernier, c'était plus 10%. Alors, on ne dit pas également, c'est toutes les sorties également qu'il y a également de tous ces gens qui vont échoir dans le RSA. Vous savez, le truc de feignant, le truc des parasites, le truc des cafards qui s'appelle le revenu de solidarité alternative. Eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Eh bien, le RSA, c'est comme les emplois aidés. C'est le levier du patronat du système. Eh bien là, il y a une main-d'œuvre bon marché qui est prête à accepter tout et n'importe quoi, du moins, c'est ce qu'ils voudraient. Parce que vous savez bien que l'emploi, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne cesse de le dire, mais on vous dit pas lequel. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'emploi ne garantit plus une vie décente. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de sous-emploi, avec notamment des emplois aidés, avec du temps partiel imposé, n'est-ce pas mesdames, hein, puisque les femmes sont les premières concernées donc par les sous-emplois et souvent bien inutiles pour même la société. Mais en tout cas, ça permet de dire aux gens qui sont en RSA, etc., prends ta thune et ferme ta gueule. Et ça me paraît quelque chose d'important. Alors nous, la crise, eh bien là-dessus, on dit bien, effectivement, on veut être respecté. Parce que quand on va à la CAF, on a envie d'être bien reçu. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous n'avons pas choisi. Ça, c'est quelque chose d'important. Quelqu'un au RSA, c'est qui ? C'est quoi ? C'est une personne qui a été salariée, qui a contribué à la richesse de notre pays, notamment. Et puis un jour, eh bien, pour des questions de profit, eh bien, on l'a jeté. Et puis, cette personne-là s'est retrouvée en allocation chômage. Mais vu que les allocations chômage, l'accès est de plus en plus difficile, au bout d'un moment, cette personne devient en fin de droit. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de gens, une paupérisation des gens de plus en plus pauvres. Et ces gens-là se retrouvent dans la survie du RSA. Et ce sont les mêmes que l'on va culpabiliser, qu'on va suspecter de fraude. Mais combien de milliards, en fait, fiscales, par exemple, combien de milliards, par exemple, sont volés, hein, n'est-ce pas, monsieur Cahuzac? Jacques, monsieur que je connaissais très bien, je viens du Lot-et-Garonne, à côté de Villeneuve-sur-Lot, entre autres. Et on a parlé tout à l'heure de DSK, mais bref, on va passer par tout ça. On sait très bien que les coupables, c'est les chômeurs, c'est les précaires, c'est les pauvres. D'ailleurs, tiens, on peut aussi parler logement, parce qu'on s'y intéresse, nous, la crise au logement. Tiens, il n'y a pas longtemps, on avait expulsé, par exemple, une personne avec deux enfants. Mais c'est pas grave, c'est vrai qu'elle ne pouvait plus payer son loyer, mais c'est vrai qu'on l'a culpabilisée, d'ailleurs, dans un logement indécent, d'ailleurs, dans un logement qui n'était pas digne de ce nom. Alors, je dis, les profiteurs, ils sont où ? Les marchands de sommeil aussi, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, moi j'ai pas envie de vous culpabiliser davantage parce que c'est pas le but quand on vous parle de violence. Hein, je disais tout à l'heure, les prisons sont remplies de gens qui subissent en fin de compte les problèmes de la société. Après on vous dit il y a la violence, mais la violence et la vraie délinquance, c'est celle qui est en col blanc, c'est celle qui exploite, c'est celle simplement qui vole, c'est celle qui écrase effectivement ceux que cette société balance et écrase de plus en plus. Alors, nous, la crise, eh bien, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, mais stop à tout ça. On est né pendant la grève des chômeurs. Ha ha, ont-ils dit. La grève des chômeurs ? Mais un chômeur, oui, parce que c'est un travail, le être chômeur. Aller chercher du boulot, trimer, survivre, c'est une occupation à temps plein. D'ailleurs, le système le sait. Pendant qu'une personne au RSA va de la CAF, va à la CPAM, va au Resto du Cœur, pendant ce temps-là, cette personne-là ferme sa gueule. Il n'y a pas de souci. Effectivement, parce qu'avec la survie, c'est juste maintenir. Mais personne ne s'y intéresse. Parce qu'effectivement, par exemple, les chômeurs, au niveau de la dernière élection présidentielle, ont représenté à l'intérieur 66% d'abstention parmi les chômeurs. Ce n'est pas rien. Et les politiques s'en tapent complètement. Ils se disent, ces gens-là ne nous intéressent pas. Eh bien, moi je dis attention parce que dessus, il y a des vautours aussi qui rôdent. Et en ce moment, sous fond de xénophobie, sous fond de préférence nationale. Alors moi je veux dire aussi aux chômeurs, aux précaires qui seraient tentés par là, ne les croyez pas non plus. Parce qu'en fin de compte, ils veulent vos voix, mais par contre ils veulent vous voler également votre propre âme, votre propre dignité. Moi je dis simplement, ce qu'on appelle à faire, c'est à prendre nos propres vies en main. Agir plutôt que subir, c'est le slogan de la crise d'ailleurs le plus important. Agir plutôt que subir pour ne plus accepter simplement la suspicion, l'humiliation. Et surtout, qu'on cherche des boucs émissaires ailleurs que où ils sont. Ce qui cause le chômage, ce qui cause la pauvreté, c'est pas les salariés, ce n'est pas nous les chômeurs, mais c'est simplement la finance. Et tous ceux qui cautionnent cette finance, les multinationales et tous ces gens-là. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Il n'y a jamais eu autant de riches qu'aujourd'hui. Et les riches n'ont jamais été aussi riches. Par contre, les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Et ça va pas en s'arrangeant. Parce que aujourd'hui, même un salaire ne garantit plus d'être à l'abri de la pauvreté. Combien de gens qui bossent et qui ne parviennent pas à finir les 15 derniers mois, jours du mois. Et par contre, pour les gens au RSA, d'ailleurs, on dit que ce sont des profiteurs. Alors pourquoi ceux qui le disent ne le sont pas au RSA, veulent pas y être ? Hein, moi, je vous pose la question. Mais pourquoi est-ce que vous courez pas après ? Et puis, quand on parle d'emploi, mais quel emploi ? Mais quel type d'emploi ? Et combien de jeunes, notamment, sont par avance se disqualifiés aujourd'hui, qu'on jette là maintenant ? Voilà, effectivement, pas de qualification, mais il y a peut-être des problèmes au niveau de l'éducation. Et nous en parlerons tout à l'heure, notamment avec notre invité, au niveau de l'éducation nationale et la précarité. Et quand on parlait de Pôle emploi tout à l'heure, il faut pas oublier que derrière, maintenant, c'est une usine. C'est une usine, comme j'ai l'habitude de dire, après nous avoir tendu, c'est les caressages. Voilà, et il faut recycler tout ça. Hein, mais recycler où ? On n'en sait rien, donc on préfère ignorer aujourd'hui. Alors les chiffres du chômage, c'est en fin de compte une question politique. C'est une question simplement d'opportunisme, simplement. Parce qu'on sait que si même on joue à baisser les chiffres du chômage, par contre ça n'amène rien pour la dignité des gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la crise ? On a d'abord commencé avec la grève de chômeurs, c'est vrai, par aller occuper des pôles emploi. Simplement pour que on arrête, effectivement, avec les suspicions de fraude. Qu'on arrête de nous forcer à accepter tout et n'importe quoi. Nous, notre slogan, c'était « Donne la thune et à le reste, on verra après ». À la CAF, c'est pareil, nous y sommes allés. Et je peux vous dire que ça bouge. À la CAF du Grand Nancy, aujourd'hui, s'est créé un comité de liaison, notamment usagers, d'abord via la crise et la direction de la CAF. Et je peux vous assurer que depuis, il a fallu occuper trois fois la CAF. Il a fallu intervenir. Depuis, Eh bien, la réception à la CAF, beaucoup de choses ont évolué à la CAF de Nancy, du Grand Nancy. Mais ce n'est pas fini. Ce que je dis, on décide à nos places de ce qui est bon ou mauvais. Eh bien, réinvestissons alors les lieux où l'on décide à notre place. Que ce soit Pôle emploi, que ce soit la CAF, mais que ce soit aussi pour le logement. Voilà, on a des personnes qui ont été relogées et ça... On n'est pas, nous, des assistants sociaux. On n'est pas non plus là pour faire de la charité. On est là pour, avec vous, pour tous ensemble, qu'on puisse réinventer quelque chose qui s'appelle la véritable solidarité. Et ensemble, on va le faire. Ensemble, on peut... C'est ça, le vrai changement. Le vrai changement, c'est le seul qu'on va imposer, nous, tous ensemble. Que vous soyez chômeur, que vous soyez précaire, que tu sois émigré, que tu sois fils d'émigré de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, avec ou sans papier, que tu viennes de n'importe où, qu'importe. L'important, cette solidarité est de réinventer surtout notre société et d'imposer ce vrai changement qui doit garantir simplement nos vies. Voilà, ça c'est pas du discours politique, c'est du discours humain, simplement. Et en fait, la politique, on va la réinventer. Hein ? Et on va se prendre en charge. On n'a pas envie d'être assisté. On a envie de vivre, simplement. On n'a pas envie de boulot de merde, de boulot humiliant. Et en plus, qu'on est obligé de prendre sous la menace. Hein ? Et hein, feignant. Hein, que celui qui ne travaille pas, disait un verset de la Bible. Mais enfin, on n'est plus dans la même conception. On n'est plus dans la même valeur. Voilà, c'est tout. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut infléchir les choses. Alors, eh bien, faisons-le. Hein ? Je vous ai lu un petit peu ce truc de Strauss-Kahn. Je crois que ce monsieur-là, hein, il est parti dans un certain pays où il va être conseiller encore. Lui n'a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et simplement aussi, où on essaie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire également dans ce système ? C'est de dresser les uns sur les autres. C'est-à-dire salariés chômeurs. Et chômeurs, bien sûr, il y a deux catégories de chômeurs. Il y a les bons chômeurs, il y a les mauvais chômeurs. Dans les plus pauvres, c'est pareil, il y a les bons pauvres. Il y a ceux qui vont se soumettre, accepter des stages de tout et de n'importe quoi, simplement pour boucher des trous. Voilà, c'est tout. Et nous, on veut pas tout ça. Et la grève des chômeurs, c'était quoi ? C'était le refus, justement, de tout ça. Et c'était de dire, avant qu'il y ait des devoirs, il y a des droits. Et il faut que ces droits-là soient respectés. Alors, c'est vrai que la situation ne risque pas peut-être de s'arranger parce que, je sais pas, le prochain budget pour la France d'annoncer, là, par exemple, va ponctionner notamment les services publics de plus de 15 milliards d'euros. Et dont 6 milliards sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est aussi le logement, c'est aussi la santé, hein, c'est aussi votre santé. Les plus pauvres, c'est vrai, ils ont le droit à la CMU, couverture mutualisée universelle. Mais attendez, il faut voir aussi comment ils sont traités aussi parfois dans certains cabinets médicaux, ici, à Nancy. On les rencontre, tous ces gens-là. Et puis enfin, moi, j'aimerais vous parler également, parce que... Inventer la nouvelle solidarité, nous cherchons à le faire. Nous sommes allés l'an dernier dans les rues également pour rencontrer les gens avec, j'appellerai pas de la soupe populaire, mais de la soupe solidaire. Voilà, nous sommes dans le concret. Et ça parce que des gens se sont mis ensemble. On n'est pas allé à la Banque Populaire pour demander qu'on nous mette un paquet de pâtes bon marché. On a simplement fait ensemble, on est allé rencontrer des gens, on a mis ensemble, on a mis tout en commun et puis on a partagé. Voilà. Et alors le partage des richesses déjà des plus pauvres, mais surtout aujourd'hui, exigeons peut-être un partage de richesses, mais aussi surtout un partage du pouvoir qu'on nous a volé. C'est-à-dire, lequel pouvoir ? Le pouvoir de décider à notre place. Voilà. Je crois, c'est une introduction, c'était la première émission, notamment Parole de crise. En tout cas, on vous donnera également la parole, et puis il y aura des gens, et puis ensemble, on va le faire. Alors, pas de misérabilisme, mais chômeurs, précaires, travailleurs pauvres, lève-toi, retrouve le sourire, parce que ensemble, ce vrai changement, on va l'imposer.
Madame X et ses enfants, tout l'hiver sans chauffage, caravane pour des gens, même pas du voyage. Et pourtant, comme elle dit, C'est pas elle la plus mal lotie. Elle en connaît qui couche dehors dans les parages. Quand y a toutes ces voitures de sport dans les garages. Madame, à savoir comment, fait deux fois plus que son âge. Elle s'endort avec des gants au fond d'un sac de couchage. Et pourtant, comme elle dit, c'est pas elle la plus mal lotie. Elle en connaît qui reste accrochée au grillage, en espérant qu'un camion manque le virage. C'était un pays charmant, c'était un pays comme il faut. elle dit, maintenant on prend quelques photos des mourants. Au lieu de leur donner de l'eau, elle dit, passe à mes chemins. Pour l'instant, Madame X et ses enfants, toujours pas de chauffage.
Francis Cabrel, eh bien, tiens, je veux lui faire un petit clin d'œil puisque j'ai habité très, très près, non pas de chez Francis Cabrel, mais de son village. En tout cas, il est, comme on dit chez nous, du pays. Mais en tout cas, parole, en tout cas, Madame X, très percutante, qui était le dernier titre, en tout cas, de l'album paru en 1999, Hors Saison. En tout cas, voilà, il y a des gens comme ça qui peuvent vous surprendre, qui paraissent pas comme ça, mais qui savent entendre et qui savent dire. Allez, merci Francis.
Misère.
RCN. Bien, nous avons donc Yann Vénier, donc de Pôle Emploi. Salut Yann.
Oui, bonjour.
Ben, je crois qu'on se connaît un petit peu quand même.
Bah, tout à fait.
Dans l'introduction,
je suis déjà intervenu plusieurs fois sur Radio Caraïbes.
Mais bien sûr. Bien sûr, super. Et puis tu connais bien la crise aussi.
Tout à fait.
Voilà. Alors, oui, tout à l'heure en introduction, pour introduire bien ton intervention, on disait qu'il y a bien l'action et puis la lutte à l'extérieur, donc des usagers. Et puis il y a également la lutte à l'intérieur, donc de Pôle emploi. C'est bien ça ?
Bah, effectivement, il y a toujours une résistance des salariés eux-mêmes à tout ce qui est politique de l'emploi fait par les divers gouvernements depuis des années. Voilà, et nous, à la CGT Pôle emploi, qu'on soit issu des ACDIC ou issu de la FPE, bah, on se bat à la fois pour les salariés, évidemment, pour de meilleures conditions de travail, pour des salaires plus importants, mais on se bat aussi pour les usagers, pour que bah, la politique de l'emploi corresponde aux besoins de nos usagers et non pas aux besoins exclusifs du patronat. Que ça soit besoin en main d'œuvre ou besoin en exonération de charges dans avec les contrats aidés ou ce genre de choses. Donc, et aussi quand on se bat pour un nombre de conseillers plus grands ou des ce qu'on appelle nous en interne les liquidateurs, c'est ceux qui calculent les droits à CEDIC, enfin ça s'appelle plus des droits à CEDIC mais les allocations chômage. Qu'on se bat pour qu'il y en ait le plus, c'est aussi pour répondre aux besoins de nos usagers.
Oui, Yann, voilà. Donc c'est super, mais pourtant, Pôle emploi, ça devait être extraordinaire normalement. Et la fusion avait été faite, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, on nous a annoncé également Pôle emploi 2015. C'est un super projet, non ?
Alors, pour la fusion,
c'est l'humour.
Il y a que ceux qui ont bien voulu y croire, qui pensaient que ça serait meilleur. Nous, dès le départ, on disait que ça serait pas mieux, ça serait même pire, parce que fusionner à la fois Alors déjà, il y a tous les problèmes d'organisation. Hein. En plus, la fusion est arrivée au pire moment, en pleine crise et d'explosion du chômage. Mais fusionner sur le principe, fusionner celui qui paye et celui qui a le droit de radier, pour nous, c'était insupportable. Donc il était clair que ce n'était pas pour améliorer le service aux chômeurs. Il était clair que c'était pour permettre une efficacité plus grande dans ce qui est les radiations ou ce genre de choses et diminuer le coût du chômage en France. Mais après, sur Pôle emploi 2015, le grand slogan avancé par la direction générale, c'est faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Alors déjà, nous, ça ne nous convient pas parce que nous, on ne veut pas faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. On veut faire exactement ce qu'il faut pour tout le monde. Donc, et au bout du compte, le Pôle emploi 2015, c'est une rationalisation des moyens, c'est-à-dire que, en fait, comme on compte des moyens, eh bien, c'est adapter non pas les moyens à la demande, mais c'est à effectif constant et à budget constant, adapter nos capacités à rendre un service, donc en dégradant le service. Par ailleurs, l'autre versant de Pôle emploi 2015, c'est avant tout à faire adopter une logique d'entreprise privée à Pôle emploi en y incorporant le pilotage par les résultats et les techniques de benchmarking, c'est-à-dire de comparaison des résultats entre salariés eux-mêmes. Ce qui va aboutir à deux choses, quand ton évolution de carrière dépend de tes résultats et là c'est pas les résultats comme on pouvait avoir avant, c'est-à-dire un pilotage des moyens, c'est-à-dire qu'avant on avait aussi des indicateurs qui étaient suivis par nos directions et ce genre de choses, mais c'était sur les moyens, combien de prescriptions, de tel type de prescriptions on a fait pour les chômeurs. Là, c'est l'indicateur principal qui va être suivi, ça va être le retour à l'emploi. Donc quand tu associes ces deux choses-là, c'est-à-dire pilotage par les résultats de retour à l'emploi plus comparaison entre les salariés entre eux, tu arrives à une chose, c'est que tous les salariés vont se battre pour avoir les meilleurs résultats vu que c'est leurs conditions de travail, leur évolution de carrière qui vont en dépendre.
Yann, je crois qu'on pourra reprendre la discussion, en tout cas le mois prochain. Notamment, on parlera de l'indemnisation chômage avec la prochaine renégociation de la convention unique. On a notre invité direct donc qui vient de rentrer. Donc voilà. En tout cas, je te remercie, Yann. Et puis je crois qu'on va pouvoir se revoir, non ?
Oui, tout à fait. Il y a pas de souci. On est toujours là pour soutenir les chômeurs et leurs associations.
On le sait. Très bon courage à vous. Au revoir, Yann.
Misère, misère.
Eh bien, nous avons bien notre invité en direct, qui est Pierre de Sud Éducation. Bien, bonjour, Pierre.
Bonjour, Pierre.
T'as pas eu trop de mal à trouver quand même,
un petit peu.
C'est de ma faute, mauvaise indication. Donc, Pierre, si tu peux nous dire d'abord qui tu es et puis qu'est-ce que Sud Éducation ?
Alors.
Et pourquoi venir dans une émission, effectivement, aussi, qui, on va le voir après, qui parle de la précarité, notamment ?
Alors, je suis un militant de Sud Éducation, syndicat Sud Éducation. J'ai un mandat fédéral pour la fédération, mandat précarité. Donc, je bosse au niveau des conditions de travail des non-titulaires qui travaillent dans l'éducation nationale. Et je m'occupe aussi sur la Lorraine de ces mêmes collègues qui sont en nombre de plus en plus important, en nombre exponentiel, que ce soit au niveau des effectifs, mais au niveau du nombre de contrats qui se démultiplient ces dernières années, même depuis le changement de gouvernement. Sud Éducation, c'est un syndicat de salariés de l'éducation nationale qui se différencie un petit peu des autres syndicats puisqu'il syndique tous les personnels de l'éducation nationale. C'est-à-dire, ça va être des contrats aidés qui sont nombreux dans l'éducation nationale, en passant par les agents d'entretien jusqu'aux professeurs de fac, aux infirmières scolaires. C'est un syndicat intercatégoriel, unitaire. On se refuse de sectorialiser les collègues dans différents syndicats parce qu'on pense qu'on a un employeur et on a une mission et on doit travailler au nom d'un même syndicat. c'est un syndicat aussi solidaire, puisqu'on pense que c'est un petit peu plus facile quand même de batailler pour les conditions de travail des collègues qui sont sur des CDD de 6 mois quand on est fonctionnaire, donc ce qui nous permet aussi de mettre en place des choses qui permettent de les couvrir. Puisque
papier,
nous,
on va le revoir là dedans
on va le revoir un petit peu.
Ouais, tout simplement, je sais qu'on se connaît bien puisqu'on a partagé les mêmes locaux, puisque vous nous aviez accueillis au départ de la crise. Voilà, d'ailleurs, on vous en remercie beaucoup, on a passé de bons moments avec vous. À tout à l'heure.
يا الفرحة مقران ميديو غال سخام روحنا كويغ بلان تبدل الدنيا تفلي يا رقازي مبابا مسود مين صحان يا رمضنا ردن بان امي ميقران غاد يلي ففثل ديه نوا ثوغ ديان مكان ميت السلف الوفان تصدق وذمي سثولين أمي ما بحال أحيى الدهب رغمان يا نراجول بردان بابك ما دي بذرو تشلي سدي طيش يروان غدا ثليسان غاس ضزرو يحفان حمل وكي ذراري نو سداوي قنوان يكشم غري ثران نتسر قفوساني ذي الحيف وردي سنو الفو آي كالي مغضان وري اللي وين يروان آي كل خاغص ما نمزو نبوي ذعو السو أني في غيتشان أهيا تصارى بركان دين تسارس ورفان من غير ذيك سدوى حلو
Très beau morceau de musique interprété par Idir, qui est dédicacé à nos amis kabyles du Grand Nancy et à toutes et à tous les autres d'ici et d'ailleurs. Eh bien Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire. Vous aviez eu un de vos patrons, c'est-à-dire un de vos ministres, qui avait parlé de dégraisser le mammouth, une période. C'était quelque peu insultant, en tout cas moi j'ai perçu comme ça, pour vous. Et puis aujourd'hui, on ne comprend pas très bien pourquoi vous parlez de précarité dans l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale, normalement, c'était le garant de l'emploi. On ne comprend pas. Ce sont des gens qui partent souvent en vacances. C'est ce qu'on nous dit, qui ont la sécurité de l'emploi, donc on comprendra. Est-ce que tu peux nous parler de la précarité dans l'éducation nationale? Nous, collectif de lutte contre le chômage, on comprend, nous, oui, mais peut-être que nos auditeurs, non.
Oui, c'est vrai que c'est important parce que dans les idées reçues, on a quand même l'impression que l'éducation nationale, c'est une grande maison qui emploie que des fonctionnaires et que la précarité n'a pas lieu d'être. Au mois de décembre dernier, on s'était allié à la marche des chômeurs à Paris, et même y compris dans les associations de chômeurs parisiennes, certaines ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce que vous venez faire ? Alors, quand on explique un petit peu que l'éducation nationale, c'est à peu près un million de salariés, il y a 170 000 agents non contractuels, non titulaires.
Ça veut dire quoi, donc ?
170 000 agents non titulaires, ça veut dire à peu près 70 000 vacataires enseignants contractuels qui travaillent par des biais de CDD, des CDD qui vont de vacances à vacances, qui ne sont pas payés pendant les vacances, donc avec des conditions de travail très difficiles.
Donc, dans l'éducation nationale, il y a des gens qui ne sont pas payés, eux, pendant les vacances.
Des enseignants. Là, on parle d'enseignants. Qui ne sont pas payés pendant les vacances. C'est-à-dire, alors ça, on ne le sait pas, des fois, dans un collège ou lycée de votre enfant, il y a quand même tous les professeurs, non pas un CAPES et n'ont pas des conditions de travail comme on peut les attendre d'un fonctionnaire, c'est-à-dire une sécurité d'emploi. Ils ont des contrats qui sont constamment reconduits. C'est assez rigolo. Notre rectrice, là, lors de sa réunion de rentrée, s'est d'ailleurs réjouie alors que les stagiaires qui arrivaient, eux, qui avaient passé le concours, qu'il y en ait autant, qu'il y ait déjà une expérience d'enseignement. Elle s'est dit, c'est très, très bien. Alors, nous, ça nous fait sourire, puisque, évidemment, on les emploie comme contractuels. Donc, ils ont déjà une expérience. C'est des gens qui arrivent sur le tas, qui se forment sur le tas. Donc, ça, évidemment, on ne peut pas l'accepter, puisqu'il n'a pas de formation, aucune sécurité de l'emploi, pas de formation continue. Et puis, vous imaginez, on ne sait jamais, on ne peut pas voir au-delà du prochain mois.
Donc ça casse également pour les parents d'élèves quelques idées préconçues, donc sur déjà le métier aussi d'enseignant. Comment tu le vois aujourd'hui, le métier d'enseignant, puisque apparemment, on parle, il y a une rentrée scolaire tout au début du mois. Voilà, donc comment c'est vécu, comment vous le vivez, vous et toi? Et voilà.
Alors, évidemment, nous, au niveau du métier d'enseignant, bien sûr, le statut de fonctionnaire doit rester la norme et on n'accepte pas que des enseignants puissent être sous statut de contractuel ou de vacataire. Hein, vacataire qui est encore pire parce qu'il y a également des vacataires enseignants. Il y a une loi de résorption de la précarité qui a été mise en place qui est censée permettre de titulariser ces personnes. Bon, après, là, un an après, on a un petit peu de recul dessus. C'est une loi qui a permis de titulariser 17% de ces non-titulaires. Et donc, il reste encore énormément, énormément, énormément de boulot à faire pour qu'il n'y ait plus de contractuels. Les contractuels enseignants, c'est une petite partie de la précarité dans l'éducation nationale. Le gros des collègues en situation précaire, ce sont les personnels en contrat aidé. Les personnels en contrat aidé qui sont au nombre là de plus près de 60 000 en France. On est à peu près un peu moins de 3 000 sur l'académie de Nancy-Metz.
Et ce sont des gens qui font quoi?
Ce sont des gens principalement vont aider les élèves en situation de handicap. D'accord, dans les classes, un métier d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire qui nécessite quand même un certain nombre de compétences et de formation, puisqu'on travaille au niveau du handicap, on travaille au niveau d'un accompagnement scolaire. Et ce sont des personnes embauchées pour des contrat de 6 à 10 mois, puis remercier, sans avoir pu recevoir la moindre formation. Et là, je rejoins un petit peu la discussion qui avait lieu au préalable, puisque lorsque ces personnes sont employées en contrat aidé, elles ont le droit à une formation qualifiante suite à une convention entre le Pôle emploi et l'Éducation nationale. L'État paye à hauteur de 70% le contrat, à condition que l'employeur, Éducation nationale, mette en place un parcours professionnalisant.
Est-ce qu'il est vraiment...
L'Éducation nationale, depuis 3 ans, ne met pas en place ce parcours professionnalisant et ne respecte pas cette obligation de formation professionnelle. Donc nous, ça a été une grosse, grosse bataille de Sud-Éducation de ces dernières années. N'acceptant pas ça, on assigne et on saisit les prud'hommes en permanence pour faire condamner l'Éducation nationale pour défaut de formation. C'est une bataille, on y est encore, puisque là, le 9 octobre, au Prud'homme de Nancy, on a 22 dossiers d'emploi de vie scolaire qui passent au Prud'homme.
Tu le rappelles, le 9 octobre.
Le 9 octobre,
où
il y aura un rassemblement avec la presse, où on vous invite d'ailleurs à venir à 14h. Et la bataille, c'est quand même pour nous, c'est certes individuel, puisqu'il s'agit de saisine de Prud'homme et de victoire individuelle, mais c'est une bataille politique, parce que l'Éducation nationale nous fait bien comprendre qu'elle payera la formation professionnalisante quand ça lui coûtera grosso modo plus cher en recours contentieux. Et là, on en arrive là, puisqu'on a à peu près 1 000 recours dans toute la France, avec des condamnations qui oscillent à peu près à 10 000 euros. Donc vous imaginez le chiffre faramineux que ça représente. Et là, une circulaire ministérielle vient d'arriver avec une enveloppe et on devrait, les employés de vie scolaire, bon, on va être vigilant à la façon dont ça s'applique, mais devraient enfin pouvoir bénéficier d'une formation qualifiante.
On a parlé il n'y a pas très longtemps, c'était au début du mois de septembre, notamment de passage en CDI, justement, d'AVS.
Alors on peut toucher un petit mot. Il y a eu, il y a une semaine ou deux, une annonce du ministère sur un plan, alors je tiens à préciser, de CDIsation des auxiliaires de vie scolaire et non pas de titularisation, parce que titularisation veut dire statut de fonctionnaire, qui est une revendication de Sud-Éducation. C'est la titularisation sans condition pour tous et toutes, sans condition de concours et de nationalité. On est, nous, sur vraiment une revendication qui est claire, c'est un travail, un statut, un salaire. Là, on se retrouve avec des gens qui font le même travail avec des statuts différents, des salaires différents. Ça, c'est inacceptable. Ce plan-là, certes, on ne peut pas dire que ce n'est pas une avancée, puisqu'il y a des personnes qui vont quand même pouvoir être en CDI, alors qu'avant, ils étaient en CDD renouvelable jusqu'à 6 ans. Le problème, c'est qu'ils sont quand même CDIsés sur des contrats de 20 heures, 22 heures. C'est quand même des CDI à 600 euros par mois. Donc, c'est CDI à 600 euros par mois, c'est quand même, on reste dans une précarité très importante. Et les personnes qui pourront bénéficier de ce CDI sont que les AVS qui arrivent au bout de 6 ans de contrat, qui arrivent à leur dernière année, parce que l'Éducation nationale ne veut pas les perdre. Au bout de 6 ans, elle les a formés quelques heures, et ils sont formés sur le tas pendant 6 ans, ils ont acquis un certain nombre de compétences, donc ils ne veulent pas les perdre. Donc, ça représente que 3 000 AVS qui vont être CDIsés. Alors sur les, on est à peu près sur à près de 50 000 personnes qui exercent des missions d'AVS de droit public. Parce que là, c'est un petit peu compliqué, mais il y a les EVS de droit privé qui, eux, sont des contrats aidés, et les AVS de droit public. Et le problème, et ça, nous, on n'est pas du tout content là-dessus, parce qu'on a été au ministère pendant un certain nombre de fois sur un groupe de travail sur la professionnalisation des AVS, qui s'appelle, on a rendu le rapport comites, et nous on demandait un certain nombre de choses, que ce soit des temps de travail à quotité supérieur pour avoir des salaires décents, pas des salaires à 600 euros, et que les contrats aidés, les dizaines de milliers de contrats aidés qui font ce travail, puissent aussi bénéficier de ce dispositif. Et là, les contrats aidés sont exclus de ce dispositif.
Je voudrais également te demander, parce qu'un établissement scolaire, ben, ça fonctionne, il y a également des cantines. Il y a également, je crois que les parents d'élèves aiment bien que leurs enfants rentrent dans des espaces propres, notamment. Et est-ce que tu peux nous parler encore de la précarité dans l'éducation nationale, ce qu'on rencontre, nous, sur nos permanences, des gens qui sont passés, justement, à l'éducation nationale, des cantinières, par exemple, des gens qui sont aussi en emploi, donc aidés. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner, justement, comment l'éducation nationale utilise, justement, des chômeurs, des précaires, justement, pour tout ce travail, ben, qui est pourtant important, quoi.
Alors, on parle d'une autre catégorie de collègues contractuels et précaires, ça s'appelle les ATTE, les agents techniques territoriaux d'entretien. D'entretien dans les établissements scolaires. C'est un petit peu plus compliqué. Alors le problème, on est encore, puisqu'il y a des ATTEE qui sont titularisés avant sous statut de fonctionnaire d'État, maintenant sous statut de fonctionnaire territoriaux, puisque c'est la région qui a récupéré la gestion. Mais on a à côté de ça encore de plus en plus d'agents techniques qui sont en contractuel, donc sous des statuts. Travaillant avec des contrats, pareil, hein, qui le but est toujours d'économiser, vous l'aurez compris, les vacances scolaires, avec des pressions hiérarchiques qui sont très fortes, puisqu'évidemment, ça leur permet, si tu fais pas ça, oui, mais c'est pas dans ma fiche de passe, oui, mais si tu ne le fais pas, bon, il va même pas dire que c'est pas dans sa fiche de passe, sinon il sait très bien que son contrat ne sera pas renouvelé aux prochaines vacances. Donc c'est aussi à la fois une manière de flexibiliser l'emploi en mettant en place des conditions qui sont alarmantes, hein, pour ces personnes, hein. Encore une fois, on n'accepte pas l'éducation nationale de faire travailler les gens pendant 2 mois, ne pas leur dire où ils vont, c'est des gens qui ont des obligations familiales, qui ont des obligations comme tout le monde, on ne peut pas. Ils vivent dans des situations insupportables. Et puis, c'est bien sûr un moyen de... il faut dire aussi les choses clairement, travailler avec des contractuels, on a des contrats qui sont courts, et on le voit aussi pour les contrats aidés qui avant étaient 12 mois, 10 mois, 6 mois. Plus les contrats sont courts, moins les personnes ont le temps de se retourner, de discuter ensemble, d'agir collectivement, de se syndiquer, de se battre pour leurs conditions de travail. Donc et c'est vrai que c'est une main d'œuvre docile pour l'éducation.
Je suppose également que, comme partout, donc ça crée également des tensions également, puisque on dresse les uns contre les autres également. Je suppose que quelqu'un de non titularisé, je ne sais pas quel regard il peut avoir quand même sur quelqu'un qui l'est, et l'inverse, et vice versa. Ouais. Comment s'applique aussi la solidarité à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a une entre les différents statuts, entre les
Alors,
différents
évidemment, hein, le but, c'est toujours de diviser pour mieux régner. Et c'est vrai que là, on voit, nous, ces dernières années, pour des mêmes missions, un certain nombre de plus en plus de contrats différents. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même très difficile. Hein. On fait le même boulot, on n'a pas le même salaire, on n'a pas le même contrat. Ça crée des tensions. Après, nous, à Sud Éducation, on essaye vraiment de travailler de manière solidaire et collective. On pousse aussi d'ailleurs à la création de collectifs de précaires, parce qu'on estime que nous, certes, il y a des choses qu'on fait, notamment quand on pose des recours contentieux, c'est davantage, bon, moi je parle pour moi, hein, je suis instituteur, prof des écoles, c'est plutôt moi qui vais aller me mouiller dans des contentieux parce que j'ai une sécurité de l'emploi. Mais après, on estime que ça doit quand même être ces personnes, ces collègues contractuels qui doivent se former en collectif, et les choses ne peuvent pas se faire à leur place ou en leur nom.
Je crois qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler, parce que effectivement c'est une catégorie de gens qui se sent un petit peu isolés, très isolés, on les rencontre également. Donc pour conclure pour l'instant, est-ce que tu pourrais nous dire quel lien par exemple il y a avec un collectif comme La Crise ou alors ailleurs, d'autres collectifs également, quel lien, quelle passerelle est-ce qu'on peut faire?
La crise, un collectif de lutte. Sud Éducation est un syndicat de lutte. On a aussi des objectifs de transformation, hein, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'école comme elle est et ses conditions de travail alarmantes. On travaille avec des personnes à la base, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous on est un syndicat démocratique, mais on essaye vraiment de l'être, c'est-à-dire qu'on fonctionne en assemblée générale et dans nos modes de décision, un contrat aidé va avoir la même voix qu'un enseignant universitaire, un maître de conférence, et on travaille tous ensemble, et évidemment on soutient et on essaye d'impulser un maximum les collectifs de lutte et pour mettre fin à cette précarité dans l'éducation nationale.
D'accord, bien Pierre, est-ce que tu peux nous dire simplement, au mois d'octobre, quelles sont les perspectives de lutte que vous avez là au mois d'octobre, hein? Donc, il y a également ce prud'homme, hein, le 9, donc c'est dans à peu près 2 semaines.
Alors là, on est sur cette grosse bataille qui est essayer de gagner un petit peu, obliger l'éducation nationale à répondre à ses obligations de formation qualifiante pour les contrats aidés. C'est le premier tour, c'est le 9 octobre au Prud'homme. Et on se doute que l'éducation nationale va faire appel. Bon, elle va essayer de faire traîner les choses. On pense que de toute façon, on va gagner. Après, il va falloir continuer à maintenir la pression au niveau de l'éducation nationale pour que cette enveloppe qui normalement a été décidée par le ministère soit mise en place correctement pour une vraie formation qualifiante qui permette aux contrats aidés de ne pas se retrouver dans la même situation quand ils prennent leur contrat et quand ils en sortent, et pas un simulacre de formation comme des fois, il faut pas que ça reste un effet d'annonce.
Donc, c'est issu d'éducation, c'est aussi une parole de crise, et c'est très bien. En tout cas, Pierre, merci beaucoup, et on sera présent en tout cas le 9. Vous pouvez compter sur nous.
Hein, d'accord. Voilà. Donc, juste, si oui, je peux dire un mot, juste pour terminer. On tient des permanences du lundi au vendredi aux 4 rue Falsbourg à Nancy. Les mercredis, jeudi et vendredi de 14h à 18h, on tient des permanences on travaille davantage aux côtés des non-titulaires et des précaires. Donc, n'hésitez pas si vous rencontrez le moindre souci. Et il y a aussi un blog du collectif des AVS, AVS de Meurthe-et-Moselle, sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre d'infos, avs-evs-54-overblog.com ou sur le site de Sud Éducation Lorraine.
Eh bien, merci pour toutes ces informations, Pierre, et à très bientôt. Salut.
Merci, au revoir.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout se met la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Désobéissance civile de Kenny Arcana, la jeune Marseillaise qui est vraiment poignante et vraiment mordante dans ses propos concernant la jeunesse, la société, vraiment quelque chose de très fort.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur.
Eh ben oui, eh ben oui. Maintenant que je suis grand, je suis chômeur. Mais en fait, est-ce qu'on avait toujours voulu être chômeur? Ben en tout cas, voilà, c'est Parole de crise va bientôt tirer à sa fin. Donc, on va vous donner quelques infos parce qu'on a parlé donc de la crise, donc cette coordination qui existe à Nancy. Hein, on vous l'a un petit peu présenté. En tout cas, première chose, c'est que nous tenons des permanences pour ouvrir à tous les chômeurs, à tous les précaires et à tous les pauvres, en fait, et puis à tous ceux qui veulent d'ailleurs. Hein, à partir du moment qu'ils sont sympas, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tous les jeudis après-midi. Donc de 15h à 17h, c'est au 69 rue de Mont-Désert. Je répète, au 69 rue de Mont-Désert, tous les jeudis de 15h à 18h. Ces permanences permettent déjà de partager, d'échanger, de trouver la solidarité. Et puis ensuite, eh bien, peut-être que vous nous parliez aussi, peut-être vous avez peut-être des problèmes avec Pôle emploi, avec les institutions. Ben, n'hésitez pas à nous le dire et ensemble, on ira voir tout ça et on va bouger tout ça. L'autre chose, eh bien, nous avons également des réunions, assemblée générale, appelons ça comme on veut, tous les mardis soirs de 20h à peu près 22h. Alors c'est une fois sur deux, là vous nous contacterez pour savoir. Une fois, c'est 69 rue de Mont-Désert. Et d'autres fois, ça va être dans vos quartiers, ça va être dans les bistrots, c'est-à-dire là où vous êtes, hein, parce qu'on ne va pas rester cantonné chez nous, on n'est pas une secte quand même. Hein, on va aller à votre rencontre. Et puis, eh bien, il y a également régulièrement des formations, en tout cas des auto-formations. C'est-à-dire pas avec des professionnels, mais tous, parce que tous, on a la connaissance et on doit connaître nos droits pour savoir les défendre. Et ça, c'est ouvert à tous et on vous expliquera, je vous assure, toutes les choses que les institutions veulent vous cacher. Voilà, et ça les arrange pas parce que là, après, vous allez chercher vos droits. Mais c'est bien, on va le faire ensemble. Voilà, et puis, eh bien, régulièrement, il y a également des actions concrètes. Et bientôt, il y aura des actions logement, puisque l'hiver va vite venir en Tuica et encore des expulsions et encore des gens à la rue. Voilà, ben je vous dis pour ma part à très bientôt. Bonne nuit.
Oui, il ne faudra surtout pas oublier bien sûr les numéros de téléphone pour nous joindre à la crise, le 03 72 14 85 23 et le numéro de téléphone mobile 07 80 71 31 89. N'oubliez surtout pas aussi le contact mail contact@lacrise54.org. Notre prochaine émission aura lieu le vendredi 25 octobre de 15h à 16h sur RCN 90.7.